Jean-Luc, bonjour.
Bonjour.
Déjà, merci de nous accueillir à l'atelier. On dit en l'atelier.
L'atelier des marches, oui.
Qui est aussi la compagnie.
Qui est le lieu de la compagnie des marches de l'été et un lieu de résidence où j'accueille plein de compagnies.
Depuis
On est depuis, oh là là, quinzaine d'années, même plus. C'est suite à la manufacture où je suis parti, donc je suis arrivé ici.
Excuse-moi, tu étais à l'origine, c'est ça, de la manufacture?
Je suis à l'origine de l'ouverture de la manufacture, oui. Et je crois que je suis ici depuis 2001, oui, c'est ça. Et voilà, donc ça fait 16 ans, 16-17 ans.
Ouais.
Voilà, oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un laboratoire
C'est surtout un laboratoire, un lieu de fabrique, enfin, un lieu de fabrique, j'aime bien le mot. C'était vraiment un lieu de travail où plus que de diffusion, puisqu'on fait rarement de la diffusion ici. Sauf exceptionnellement au mois de mars, parce qu'il y a tellement une pénurie de lieux à Bordeaux que j'ai décidé de l'ouvrir pour trois compagnies qui voulaient montrer leurs travaux. Mais sinon, c'est un lieu de travail ou de résidence où je propose aux compagnies pratiquement gratuitement de venir travailler ici une semaine, deux semaines, trois semaines.
Alors, on se rencontre aujourd'hui pour parler de 30-30.
Principalement, oui.
30-30, déjà le nom, c'est toi qui...
Oui. Bah oui, parce que bon, au départ, c'est 30 secondes, 30 minutes, quoi. Donc, bon, c'est vrai que c'est plus 30 minutes que 30 secondes. Donc, les formats sont plus autour de 30 minutes, 40 minutes, je dépasse un peu. Mais le titre vient de là, sur la durée, quoi.
Alors, pour résumer, c'est du 23 janvier au 2 février, sur 10 jours. À peu près, c'est
oui.
Ça, ouais.
10 soirées, oui.
Voilà, 10 soirées. Ouais. Le côté original, c'est que c'est sur Bordeaux Métropole, mais c'est aussi, et ça c'est nouveau, je crois.
Ça s'ouvre de plus en plus à la région, puisqu'avant, depuis 2 ans, depuis 4 ans, j'étais à Boulazac, et depuis 2 ans à Cognac. Mais là, c'est vrai qu'on est avec Nexon, en corréalisation avec Nexon à Limoges, et on est à Pau. Et il y a d'autres villes qui veulent, dans les années à venir, s'intégrer à ces soirées.
Alors pourquoi avoir choisi Boulazac en Dordogne pour commencer, pour inaugurer le festival?
C'était pas l'inauguration, parce que nous, okay. Ça fait la 15e édition, et donc en fait, ça fait depuis 5 ans maintenant qu'on est à Boulazac. Mais c'est quelqu'un que je connaissais avant, parce que moi je suis metteur en scène, donc régulièrement il a pris mes spectacles en diffusion, donc on communiquait bien ensemble, on s'entendait bien ensemble, et c'est vrai que je ne sais plus si c'est lui qui me l'a proposé ou moi. En plus, ça, moi, c'est vrai que c'est un festival de forme pluridisciplinaire, donc avec toutes les disciplines. Et on a été amené à se dire pourquoi pas faire une soirée plutôt avec les arts circassiens de forme courte à Boulazac. Et donc, ça va faire la 5e ou 6e année qu'on est là-bas.
C'est exceptionnel que vous orientez. Vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez trois spectacles de cirque, c'est ça, cette année?
On a plus que ça, parce qu'on a une dizaine de spectacles. Oui, parce qu'on fait, là, on fait vraiment un focus encore cette année, puisqu'on a une soirée à Boulazac, où il y a trois formes. Après, on a une soirée dans le cadre de Chapiteau en hiver à Bègles, où il y a trois autres formes. Et puis, à Gradignan, on a aussi une forme circassienne. Et puis, et à Limoges, où on termine le 2 février avec Nexon, qui est aussi un pôle national de cirque, on a trois autres formes. Donc on a à peu près 10 spectacles de cirque cette année sur les 35 proposés.
Ah ouais.
Mais bon, quand on dit cirque, c'est vrai que maintenant, le cirque contemporain, c'est aussi... Certaines formes, c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est de la musique, parce qu'il y a beaucoup... Maintenant, les formes se mélangent beaucoup, et les formes circassiennes contemporaines utilisent au départ le corps, mais... bon, je prends l'exemple de Crida Company, c'est plus... c'est de moins en moins... Enfin, le cirque traditionnel, quoi. C'est plus du cirque traditionnel, en tous les cas.
Ta volonté, toi, il y a deux mots que j'ai imprimés. Il y a le mot marginal.
Ouais.
Et ouais.
Oui, oui, ouais, oui.
Ça ne doit pas être la première fois qu'on te le dit. Et le mot, là, tout ce qui peut être en marge. Alors, pour toi, la marginalité, c'est quoi, c'est quoi avec tes mots à toi?
Bah, c'est compliqué de rester dans la marginalité parce que moi je suis inclus dans. Bon, c'est vrai que c'est un festival qui est financé institutionnellement, qui va dans l'institution, etc. Et donc essayer d'avoir. Non, c'est plutôt un état d'esprit la marginalité. C'est rester dans une sorte de liberté de choix, de rencontre, etc. Et donc. Bon, et la marginalité, c'est aussi le fait que je revendique des choses que les gens n'osent pas dire tout haut, et que moi je dis tout haut. Par exemple, je me pose des questions sur la disponibilité du public. Je suis toujours en train de dire qu'il faut d'abord désemplir les salles plutôt que les remplir. Donc je vais à l'encontre des idées reçues et de ce que peuvent dire les gens. Donc ça, c'est un peu la marginalité. Et c'est vrai qu'en plus de ça, moi, en tant que metteur en scène, c'est autre chose. Mais j'ai toujours travaillé autour des auteurs qui travaillent sur la marge. Par exemple, bon, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé autour de Beckett. Ouais. Beckett travaille autour des gens qui sont pas intégrés dans la société. Bon, mais ça soit, de toute façon, si c'est Peter Hanke ou si c'est un certain nombre d'auteurs, Heiner Müller, etc., que j'ai travaillé. J'ai toujours travaillé à partir d'auteurs qui travaillent à partir de la marge. Mais en même temps, j'ai envie de dire que est-ce que l'art ne peut pas... normalement, c'est la marge, pour moi. tout l'art devrait être de la marge.
Oui,
l'art institutionnel, pour moi, il est mort d'avance, quoi. Et c'est le gros problème à l'heure actuelle.
Intéressant.
À développer, oui. Ouais.
Mais toi, ta patte, parce que tu as une patte. Quand on dit Jean-Luc Terrade, figure emblématique, on peut lire figure emblématique, ça doit te faire rire, ça, non?
Oui, je ne fais pas attention. Non, moi, ça m'amuse d'être catalogué dans les gens comme ça, comme un ovni ou quelqu'un qui emmerde tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas que j'emmerde tout le monde, je dis la vérité, je dis ce que je pense. Bon, et c'est vrai que, par exemple, quand je vais voir des spectacles, à la fin, je dis ce que je pense. Et je crois que c'est bien pour les artistes de dire réellement ce qu'on pense de ce qu'on vient de voir, quoi. Sans vouloir défoncer quelqu'un ou le démolir. Mais c'est bien aussi que les artistes aient des vrais renvois. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, rarement, les gens prennent des pincettes, disent pas ce qu'ils pensent, etc. Donc voilà. Donc c'est vrai que je suis considéré comme quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui est un peu fou, un peu toujours. Je m'en fous complètement. Enfin, donc voilà. Donc.
Pour moi, ça me fait revenir à cette idée de laboratoire. Pour moi, t'es un chercheur. Tu glanes. Et après, je me pose la question. Est-ce que tu sais mettre des mots sur ta patte? Parce que tu t'appropries... tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ta patte? 30-30, c'est... y a une patte, c'est la tienne. C'est une façon de concevoir une démarche artistique, un mélange, un bouillon, une mayonnaise qui fait que les univers se croisent, un rapport avec le public qui est différent. Enfin,
Mais c'est très instinctif et c'est très... bon, moi, je ne sais pas. C'est vrai que quand on me dit c'est quoi la ligne artistique du festival... J'ai envie de dire que je ne sais pas, en fait. Je m'en aperçois après. C'est-à-dire que c'est quand je mets les artistes les uns à côté des autres et quand je vois les 35 artistes ou les 80, où je me dis, tiens, qu'est-ce qui se définit à partir de ça? Parce qu'en fait, j'ai choisi, soit parce que je les connais, que je les défends et je l'aime bien. Il y a des fidélités comme Kevin Jean, comme Yann Martens, par exemple, ou Mathieu Maffie Foundation avec Arnaud Sori. C'est donc des gens que j'aime, que j'ai déjà programmé et que j'aime, donc je reprogramme. D'ailleurs, ça me... Voilà. Et puis, il y a des découvertes, mais je ne sais pas comment définir le choix des gens. C'est tellement vaste, parce que d'une part, c'est pluridisciplinaire, donc c'est dans toutes les disciplines. Je ne sais pas, je dirais...
Ah, parce que j'ai envie de te dire... Enfin, ce que tu me dis, ça me fait penser... En fait, à chaque fois, c'est une rencontre, c'est tout, quoi.
Oui,
voilà.
Tout simplement, c'est une rencontre. Et puis, c'est que j'ai l'impression que quelqu'un a sa place sur un plateau. Donc, peut-être on peut dire ça, quoi. À sa place sur un plateau et a envie de partager quelque chose. Les mots, c'est compliqué, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il soit pas de... J'ai pas envie de programmer des gens qui vont être dans le sens du poil, quoi. Voilà, en gros. Mais qui peut être aussi... Bon, c'est vrai que je dis souvent, ça doit être des choses dérangeantes, provocantes, mais la poésie peut être dérangeante. Il n'y a pas simplement le rapport au sexe qui est dérangeant. La vraie poésie peut être dérangeante, et dérangeante, mais dans le bon sens du terme.
Alors, Olivier Neveu, ça te parle ?
Oui.
Moi, ça m'a beaucoup parlé.
Oui.
Donc, je vais te faire une petite lecture.
Oui, parce que je ne me souviens plus ce qu'il a dit exactement. Mais
alors, c'est une lecture qui fait 4 lignes.
Ah bon, parce que j'ai cité, moi, dans le...
Oui, tu as fait
ouais.
ça.
Oui.
En se jouant des genres et des disciplines, la création contemporaine, ici, se veut un lieu radical de la contradiction et parfois du désordre. Et non pas un moyen de pacification sociale chargé de favoriser le vivre ensemble, ce qui est devenu progressivement la fonction de l'art. Olivier Neveu, c'est très bien dit.
Oui, je pense que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, et très, depuis assez longtemps, on demande à la culture de pallier à la politique et aux problèmes qu'ils ont, et donc de rassembler les gens coûte que coûte, alors que moi je pense qu'effectivement, avant de les rassembler, il faut d'abord les diviser dans le sens que... Pourquoi les diviser ? Parce qu'en fait, il faut vraiment qu'ils aient leur libre arbitre et vraiment qu'ils fassent principalement leur choix par rapport à eux personnellement. Alors que là, pour l'instant, ils sont influencés par tellement de choses que il y a un faux rassemblement des gens. Quelque part qui n'existe pas. C'est vrai que moi, je suis très étonné, par exemple, sur maintenant au spectacle, c'est-à-dire que les gens, même s'ils n'aiment pas, ils applaudissent, tout va bien, etc.
Il y a une convention, quoi.
Il y a une sorte de choses conventionnelles et on ne peut plus faire de vagues, quelque part. Ou alors, on nous interdit de faire des vagues.
Des formats.
Oui. Donc... Et donc, non, je pense que s'il faut... Moi, je dis souvent, c'est bien... Avant, on lançait des tomates... moi, je pense qu'il faut revenir à ça. Enfin, quelque part, un peu à ça, quoi. Moi, quand il y a des gens qui gueulent tout haut, qui sont pas contents du spectacle, bon, c'est vrai que ça me gêne, moi. Mais en même temps, après, je me dis, mais ils ont raison. Parce qu'il y a un moment, ça suffit, le silence, quoi.
Ouais, il faut revenir, en fait. C'est une contradiction totale, quoi. Il faut réapprendre à s'exprimer, je sais pas.
Oui, et puis ne pas avoir peur du désordre. Voilà. Et c'est vrai que pour créer quelque chose où vraiment les gens vont être en communion, où il va se passer quelque chose, il faut d'abord, à mon avis, créer du désordre. Je pense, et c'est en ce sens-là que je dis, il faut désemplir les salles avant de les remplir. Parce que c'est vrai qu'il y a, à l'heure actuelle, beaucoup de gens qui rentrent dans les salles, mais qui n'ont pas envie, qui n'ont pas faim de culture ou pas faim de théâtre. Moi, je suis stupéfait de plus en plus quand les gens vont dans les galeries d'art. Bon, ils ne regardent pas les tableaux, ils les photographient et après, ils s'en vont. Attends, on est où, là ? On est où ? Bon, voilà.
Ton rapport à la danse, c'est né comment ? Parce que d'abord, tu te considères en premier comme un comédien ou pas ? Même pas ? C'est un tout ?
Non, oui, c'est vrai que j'ai commencé par le théâtre, mais c'est vrai que j'ai commencé le théâtre, mais j'ai mis 25 ans à aimer le texte. Donc,
mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Mais oui, c'est vrai. Vraiment, je n'aimais pas les textes. Mais j'ai commencé le théâtre parce que j'avais envie de...
T'étais fâché avec eux ou tu les aimais vraiment pas ?
Non, je n'arrivais pas à rentrer dans un texte, à aimer un texte. Maintenant, ça me passionne. Mais en même temps, donc, du fait que je me suis retourné vers le corps, parce que je trouvais que le langage du corps, moi, me parlait beaucoup plus que le langage textuel. Maintenant, ça s'est équilibré, j'aime les deux. Donc, c'est pour ça aussi qu'assez rapidement, je me suis intéressé vraiment à la danse. Bon, quand j'étais à Paris, j'ai pris pas mal de cours de danse.
Ah, tu sais danser ?
Je savais un peu danser.
Danse contemporaine, j'imagine ?
Oui, contemporaine. Moi, j'ai travaillé à l'époque de la belle époque de l'opéra avec toute l'équipe de Caroline Carson. Donc, Caroline Marcadet, il y avait Louis Sayette, etc. Donc, on prenait des cours à l'opéra, d'ailleurs. C'était vraiment très chic. Et puis après, j'ai fait des chorégraphies quand même avec Francesca Latuada, avec Louis Sayette. Pas beaucoup, mais je... Alors, c'est vrai que maintenant, je m'intéresse plus à un travail, ce qu'on pourrait dire en Angleterre, on dit physical theater. Bon, en France, théâtre physique, ça, c'est pas bien de dire ça. Mais c'est vrai que quand je crée des textes, comme ce que j'appelle Oubli de Mauvigny, bientôt... un texte de Jeune Fausse, Heiner Müller, que j'adorais, Beckett. Soit je travaille sur des créations où il y a très peu de textes et c'est vraiment un travail d'installation et un travail physique. Donc voilà, c'est vrai que je suis arrivé au théâtre, mais en n'aimant pas les textes.
Et quand tu étais petit, et qu'on te disait, dis-moi...
Qu'est-ce que je veux faire? Ben, je voulais faire des comédiens.
Ah, tu le savais déjà?
Oui, depuis très tôt, oui. Mais bon, parce que j'étais différent et que je voulais me faire voir, quoi. Bon, c'était simplement un plaisir, mais je crois que... en même temps, je revendique ça. C'est un comédien, enfin, quelqu'un qui veut être comédien, c'est aussi pour se montrer. C'est un métier très narcissique. Mais il ne faut pas le cacher. Donc, même si après, on se dit, il faut que... enfin, le comédien doit aussi s'effacer derrière plein de choses, mais en même temps, j'ai envie de dire que je pense que les trois quarts des gens qui veulent être comédiens au départ, c'est parce qu'ils ont envie d'être à l'affiche et se montrer. Ben moi, c'était vraiment ça. Ça n'a pas vraiment marché, d'ailleurs.
Après, il y a l'ego, peut-être, quand même.
L'ego, dans le sens...
dans le sens, je me dis... avoir un ego, c'est quand même assez essentiel. Et après, il y a l'autre ego qui peut être un petit peu... j'ai envie de dire, du mauvais côté de la force. Ou pas, je sais pas.
Oui, mais... Oui, il y a l'ego. Mais bon, il n'y a pas que dans ce métier-là. Hein. Donc,
t'as raison.
Partout, hein.
Bien sûr.
Partout. Partout. Mais en même temps, bon, j'ai envie de dire qu'il faut donner. Parce que moi, par exemple, ceux qui font des one-man shows, tenir 1h15 ou 2 heures sur un plateau tout seul, il faut le faire. Hein. Ouais. Il faut le faire. Il y en a qui sont très doués. Enfin, moi, je revendique. Il y a des gens très doués là-dessus. Bon, c'est pas le même métier que comédien. C'est pas pareil. Mais voilà, quoi.
Quand tu vois une performance, c'est quoi une performance qui te touche profondément ? Que tu mets ?
Ben, je...
Peut-être un exemple, je ne sais pas. Est-ce que
oui, par exemple, j'ai vu la dernière performance de Stephen Cohen, que je voulais prendre, qui a fait une performance à partir de la mort de son compagnon. Et qui une sorte de il rend hommage à son compagnon, et c'est en même temps esthétiquement et sur un plateau c'est magnifique, et en même temps c'est touchant comme c'est pas permis, quoi, mais jusqu'à être dérangeant, mais à mon avis dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a toute une séquence par exemple où il va dans un abattoir où il se baigne du sang des vaches, des gens qu'on égorge, des vaches qu'on égorge. C'est en même temps c'est horrifiant, mais en même temps, moi, tout d'un coup, je pense à la tragédie grecque. Donc, il y a... Alors, en même temps, ce que j'ai envie de dire, c'est... Quand ça me plaît, c'est que ça touche au plus intime de la personne qui est sur le plateau, et ça ouvre à l'universel. Donc, c'est en même temps, c'est de relier l'intime au plus grand nombre. Quand il y a ces deux choses-là, alors là, c'est parfait.
Et puis ça s'entend aussi dans le public. Tu ne trouves pas qu'il y a ces moments de silence ?
Oui, bah, ça existe pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai entendu ça dans des représentations de régie, j'ai entendu ça avec Ostermeyer, mais sinon, il y a un faux silence aussi. Donc, voilà.
Ah bon.
Mais les vrais, effectivement, ça s'entend. Quand tout d'un coup, il y a une sorte de communion des gens qui sont pris, ça s'entend, oui, absolument.
Alors, par rapport à ta façon de voir la performance, je me pose une question. Dans un des spectacles que tu mets en avant, il y a un artiste bulgare, et il y a cette notion d'interaction avec le public, où le public écrit aussi, quelque part, le spectacle sur le moment présent. Est-ce que je dis une bêtise ?
Non, ça existe, mais ça, c'était l'année dernière.
Oui.
C'était Ivo Dimchev.
Merci.
Ivo Dimchev qui, en fait, fait une performance avec... Je ne l'ai pas invité, moi, à 30-30. J'ai invité Ivo Dimchev, mais pas dans ces performances-là. C'est-à-dire, il demande... par exemple, il demande à deux spectateurs de venir sur le plateau, d'écrire sur ordinateur ce qui leur passe par la tête, et lui interprète le texte des spectateurs. Donc, il y a une sorte d'interaction comme ça qui arrive. Oui.
OK. Je vais reformuler. Oui. En fait, parce que j'ai cru... Je me suis dit, tiens, est-ce que pour Jean-Luc, une performance très très forte induit que le public est lui aussi acteur du moment vécu, et il crée aussi en même temps.
Oui, il y a beaucoup de performeurs qui impliquent le spectateur. Moi, en même temps, je ne suis pas contre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. Parce que mais là, parce que c'est peut-être l'âge. C'est-à-dire que pour moi, un spectateur, il est dans le noir, il reste passif. Enfin, c'est pas passif, non, il ne reste pas passif. Mais il a une sorte de, comme ça, d'ouverture pour qu'il reçoive les choses et il puisse partir dans son imaginaire. Mais il y a beaucoup d'artistes performeurs qui demandent à ce que le spectateur soit actif et joue, effectivement. Moi, j'en reçois pas beaucoup. Parce que je trouve ça bien, mais je pense... Moi, j'ai assisté des fois... Moi, quand je sais qu'il y a une performance où on nous demande de participer, j'ai plutôt envie de fuir qu'autre chose, moi. Parce que je me dis non, je ne veux pas participer à ça. Alors, quand c'est bien fait, quand c'est fait avec une sorte
bienveillance.
De bienveillance, etc., ça fonctionne. Des fois, c'est une sorte d'obligation et ça me met mal à l'aise.
Ça peut être rapidement intrusif, c'est vrai.
Ouais. Mais c'est vrai que ça existe beaucoup. Ouais. Moi, par exemple, cette année, j'en ai pas comme ça.
Okay.
Bon, c'est vrai que par contre, il y a des performances. L'année dernière, c'était par exemple Volmir Cordero. Cette année, il y a le couple Charon-Chambon, où les gens sont mélangés dans l'espace de... Le plateau et le public sont mélangés. Donc, il y a un rapport comme ça, plus ou moins direct. Mais il n'y a pas véritablement de participation du public au spectacle.
Je te remercie.
De rien.
On va dire que j'habite vers la place Gambetta.
Oui.
J'ai rapidement balayé le programme, comme beaucoup de gens, en diagonale, hein, parce qu'on fait beaucoup de choses en diagonale maintenant.
Oui.
Dites-moi, monsieur Terrade, j'aimerais me bloquer une soirée. Vous me conseillez quoi ? J'habite place Gambetta, le moins loin en vélo.
Bah, plus Gambetta, c'est à Bordeaux, et donc Bordeaux, c'est de toute façon...
C'est près de tout.
Non, c'est près de tout, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, on est principalement, enfin pas que principalement, on est du côté du Globe Théâtre, des Chartrons et du Marché de l'Herme. Ouais. Donc c'est plutôt le samedi et le dimanche.
Tu me dirais quoi ? Alors samedi, je vais où ? Tu me conseilles quoi comme spectacle ? Elle est bonne, cette question.
Non, mais je suis en train de réfléchir parce que c'est plein.
Il
y a plein de choses pleines, donc c'est là où il y a encore de la place. Non, je ne sais pas. Le dimanche, au Chartron, il y a deux performances. Il y a trois performances. Il y en a une aux performances dans le lieu d'EGA, et puis Kevin Jean et les deux danseurs de Yann Fab, d'ailleurs, qui est le dimanche après-midi. On inaugure le dimanche après-midi. Je pensais que ça ne marcherait pas, mais ça marche très bien. Et je pense que ça va être une belle après-midi. Donc voilà, le dimanche après-midi, au mois de janvier, en général, on s'emmerde le dimanche. Donc ça peut être bien.
Donc, tu viens de nous dire qu'en fait, c'était plein.
On a des petites jauges quand même, hein, donc, mais pratiquement, il reste très, très peu de place. Alors bon, sur Bordeaux, il reste peu de place. À Bègue, c'est une soirée cirque, on est vraiment... Il en reste de la place, mais ça marche très bien, quoi, oui.
Mais c'est une bonne nouvelle, ça.
Oui.
C'est tous les ans comme ça ?
Oui, mais c'est tous les ans comme ça, mais encore une fois, parce qu'on a des jauges petites. Donc on fait... c'est des jauges à Bordeaux, on fait deux fois 110 personnes, donc ça va. Mais je pense qu'on pourrait faire un peu plus, mais je pense que pour ce genre de proposition sur Bordeaux, on devrait fédérer et beaucoup plus de monde. Il y a encore un travail vraiment à faire pour que le public n'aille pas uniquement voir des spectacles au TNBA, mais aussi vienne à ce genre de proposition. On est quand même une ville très conservateur, hein. Triste.
Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire qu'on n'a pas dit ? Quelque chose qui te tient à cœur ? Je pense que tu as beaucoup de choses dans le cœur.
Oui. Non, il y a une chose nouvelle aussi qu'on a fait, ce qui me tient à cœur, c'est qu'on a. J'ai demandé à. Avec Limoges, on a demandé à 5 auteurs d'écrire 5 textes originaux. Autour du thème du silence, qui dure autour de 10 minutes, et qui vont être lus dans la soirée de Limoges le 2 février, et que l'année prochaine, j'aimerais bien monter les spectacles. Donc il y a Solène Denis, Fornet, Arnaud Poujol, Thomas Gornet Delphine Eke. Et ça, je suis très content. En plus, ça a été édité chez les éditions Moir. Donc en corrélation avec l'OHARA, et je suis très fier de ça, donc voilà.
Jean-Luc, Je te dis très bon festival à toi et à toute ton équipe, parce que je pense qu'il y a du monde autour.
Il n'y a pas énormément de monde, non, mais ils travaillent très bien.
Ils sont efficaces.
Oui, non, oui.
Je te remercie.
Merci.
Au revoir, à bientôt.